Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. De plus en plus en France, on réalise que l'eau est une denrée qui devient rare. On parle beaucoup, mais sans trop comprendre, de toutes les problématiques qui sont liées à l'eau. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Magali Regueza, qui est docteur en géographie, qui est prof à Normalsup, qui est membre du Haut Conseil pour le Climat, et qui va nous entraîner pendant cette heure dans une explication, dans le détail, des problématiques liées à l'eau. Vous allez voir, c'est une discussion très didactique où elle prend le temps de bien expliquer et c'est ça qui est agréable parce que c'est tellement complexe. Du coup, j'ai des tonnes de questions, donc c'est pas complètement impossible que je fasse un autre épisode avec elle ou que j'en fasse d'autres par ailleurs parce que c'est tellement compliqué cette problématique qui est liée à l'eau que ça mérite de prendre le temps pour la comprendre. Je vous laisse écouter l'épisode, j'espère que ça vous plaira. Je suis assez convaincu que ça va vous intéresser, que vous allez apprendre des tonnes de choses. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Magali, comment vous allez aujourd'hui?
Bonjour, écoutez ça va, bon. Il fait un peu chaud.
Bon, on va parler justement de la chaleur entre autres. Vous êtes géographe et on va parler d'hydrologie et de gestion des risques. Je ne suis pas certain que tout le monde fasse le lien entre les trois sujets. Comment on fait le lien entre la géographie, l'hydrologie et la gestion des risques?
Alors, on a encore souvent l'impression que la géographie, ça sert à localiser des villes sur une carte et c'est la liste des départements. Mmh. En réalité, la géographie, c'est une discipline de sciences sociales, mais qui a une histoire un peu ancienne. Et au début, elle était divisée entre la géographie physique, où on étudie en fait les processus physiques qui animent notre planète. Donc, il y a des... En géographie, il y a des gens qui ont des formations en hydrologie, il y a des gens qui ont des formations en climatologie. Et puis, progressivement, la discipline a évolué pour devenir une science humaine et sociale, et donc regarder les réponses des sociétés par rapport à ces événements, comment justement elles s'adaptent, comment elles font face à ces événements. Mmh. Et il se trouve que les risques, c'est la rencontre entre des processus physiques qu'on appelle des aléas, et puis des sociétés, des écosystèmes, des territoires qui sont à la fois exposés et vulnérables. Et donc, mon travail en tant que géographe, mon objet de recherche, ça a été de regarder comment les sociétés faisait face à tout ça, se relever ou pas, avec un angle un peu particulier. Moi, je ne vais pas regarder les individus, je ne vais pas regarder les collectifs, je vais regarder l'espace, je vais regarder la surface terrestre sur laquelle on est. Je vais regarder comment elle va intervenir et pour augmenter les dommages et parfois pour les diminuer.
Ok. Et alors justement, si on parle de la surface terrestre, il y a une information que les gens ont du mal à comprendre quand on parle des risques qui sont liés à l'eau. Et peut-être vous pourriez nous expliquer, c'est qu'il y a toujours autant d'eau sur la planète. On ne peut pas avoir moins d'eau sur la planète, ce n'est pas possible.
Alors ça, c'est intéressant parce que la géographie, justement, elle apporte des réponses à travers ses méthodologies. Le propre d'un géographe, c'est de regarder ce qu'on appelle les échelles de temps. Temps court, temps moyen, temps long. Mmh. Et puis, ce qu'on appelle les échelles spatiales. Donc, quand j'ai parlé d'échelle, en fait, je vais essayer de prendre des zooms sur la planète Terre en regardant des surfaces toutes petites, par exemple votre maison, votre jardin, la ville, jusqu'à la surface totale de la planète. Et il se trouve que effectivement, si on regarde l'échelle planétaire, l'échelle de la planète, l'eau est une ressource renouvelable, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il y a ce qu'on a appris à l'école qui est le cycle de l'eau, où on voit la petite goutte qui s'évapore, va dans le nuage, replie, etc. Déjà, ce cycle de l'eau, il met en jeu des échelles temporelles. Parce que, par exemple, la petite goutte qui va aller dans l'océan, elle va mettre parfois des centaines, des milliers, voire des centaines de millions d'années à circuler. Alors que parfois, une goutte qui s'évapore, elle va retomber tout de suite sous forme de pluie. Le deuxième problème qu'on a, et la géographie aussi nous dit, si on regarde cette fois-ci les GCS spatiales, au niveau mondial, il y a suffisamment d'eau douce. Je dis bien d'eau douce parce que l'eau salée, ça ne nous concerne pas. Donc, la part d'eau douce, elle est minoritaire. La part d'eau salée, évidemment, elle est très largement majoritaire avec les océans. Mais même si on regarde l'eau douce, chaque être humain sur la Terre a à peu près 16 000 litres d'eau par jour pour vivre. Donc, c'est énorme. Le problème, c'est que cette eau, elle n'est pas également répartie.
Bien sûr.
Il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau. Par exemple, l'Amazonie. Par exemple, le fleuve Jaune en Chine. Mais vous comprenez bien qu'entre la Chine, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, et puis l'Amazone, où il y a peu de monde, déjà la disponibilité n'est pas la même. Et en plus, tous les individus, à l'échelle encore plus petite, n'ont pas accès de la même manière à l'eau. Parce que, par exemple, et là c'est l'espace qui va jouer, vous pouvez avoir une frontière, une limite juridique, économique, physique, qui fait que vous ne pouvez pas accéder à cette eau. Donc, il y a des gens qui habitent dans des territoires avec beaucoup d'eau qui n'y ont pas accès. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui vont habiter dans des territoires où il y a très peu d'eau douce, mais parce qu'il y a des richesses, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils appartiennent à des groupes puissants. Soit ils vont avoir des techniques pour aller chercher de l'eau, soit ils vont tout simplement aller la chercher chez les voisins.
Et alors, si on a 16 000 litres d'eau par personne. Alors, j'ai bien compris que c'était mal réparti, mais on va parler de la France, parce que c'est ce qui nous intéresse. Bon, il y a tout le monde, tous les gens qui écoutent ce podcast ne sont pas en France, ils peuvent être un peu répartis dans la francophonie ou aux États-Unis, mais on est quand même sur une grande majorité de personnes qui vivent en France. Est-ce qu'il y a des risques? Parce qu'on voit des villes où on commence à faire des restrictions d'eau. Comment ça se fait, en fait? Donc, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau en France ou chez nos partenaires?
Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début, j'ai dit que le risque, c'était un élément physique, par exemple une sécheresse météorologique. Il ne pleut pas assez par rapport à la moyenne, et donc j'ai moins d'eau qui vont arriver sur mon territoire. Imaginons qu'en plus, comme c'est le cas actuellement, il fait plus chaud, cette eau s'évapore en partie, et puis imaginons qu'il y a des végétaux qui ont poussé parce qu'il fait plus chaud, et bien cette eau, au lieu d'aller s'infiltrer dans les sols et de recharger mes nappes phréatiques, elle va directement repartir dans l'atmosphère. Elle n'est pas perdue, elle va aller ailleurs, mais elle est perdue pour le territoire. Le problème, c'est que cette eau en soi, il n'y a pas de risque si derrière, il n'y a pas des sociétés qui ont des besoins. Si derrière, il n'y a pas des activités qui ont des besoins. Moi, j'ai besoin d'eau pour faire ma cuisine, pour boire, pour irriguer mon champ, exactement, pour faire de l'énergie, pour faire de l'industrie, pour tout. Et donc, en fait, quand on parle de risque, on devrait parler de risque de pénurie. Et pourquoi c'est important? Parce que l'aléa, c'est une quantité qu'on va mesurer. En soi, elle dit rien. En revanche, la pénurie, c'est quand l'offre de la disponibilité en eau devient insuffisante par rapport à la demande. Et donc, on peut avoir deux phénomènes. La demande, elle peut rester constante et l'offre baisser. Ou même si j'ai la même offre, si la demande augmente, eh bien, j'ai toujours ce risque de pénurie. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que structurellement, selon les territoires, en France, en moyenne, à cause du changement climatique, on a moins d'eau disponible. Pas parce qu'il pleut moins, mais parce qu'il fait plus chaud. Comme il fait plus chaud, les végétaux poussent plus tôt, ils disparaissent plus tard. Donc, nos nappes phréatiques ont moins de temps pour se recharger parce que c'est les végétaux qui vont récupérer l'eau qui ne va plus dans les sols. Et puis, comme il fait chaud, eh bien, d'une part, vous avez une évaporation des rivières, des lacs, des sols et une évapotranspiration des plantes plus forte, mais aussi des besoins plus importants parce que, vous le savez, quand il fait chaud, on a plus soif parce qu'on transpire plus. Donc, si vous voulez, indépendamment des demandes sociales, on a déjà un déséquilibre dans les milieux entre l'eau qui est disponible aujourd'hui. On a à peu près depuis 2003 une baisse de 15% sur l'ensemble du territoire national. Alors, il y a des endroits où c'est plus important, il y a des endroits où c'est moins important. À cette baisse s'ajoute le manque d'enneigement. À chaque fois qu'on a un degré de plus de réchauffement, on perd un mois d'enneigement. Et donc, ça veut dire que cette eau de la neige, quand elle fond, elle vient alimenter les cours d'eau au printemps. Ben, on en a moins. Et puis, on a aussi des glaciers qui fondent. Et moi, j'ai des glaciers. Moi, le couvercle de glace est important. Eh bien, moi, à l'été, ces glaciers vont aussi alimenter les petits torrents de montagne. Donc, d'un côté, vous avez cette baisse de l'eau. De l'autre, vous avez des besoins qui augmentent, les besoins des végétaux. Ça veut dire notamment les besoins de l'agriculture, parce que les animaux ont soif, parce que les cultures ont soif, parce que les arbres ont soif. Et puis, c'est aussi des besoins sociaux qui vont augmenter. Alors, soit de manière indirecte, parce que, par exemple, pour fabriquer de l'énergie, je pense à l'énergie nucléaire, mais aussi pour faire l'énergie hydraulique, évidemment, mais aussi pour refroidir, par exemple, des data centers, eh bien, j'ai besoin d'eau. Et puis, en plus, sur certains territoires, l'été, ben, c'est le tourisme. Et qui dit tourisme, mais que vous avez beaucoup de monde qui arrive. Et donc, ce qui est paradoxal aujourd'hui en France, c'est que vous avez des besoins en eau qui augmentent de façon locale, ponctuelle, dont une partie est liée à la chaleur. C'est un cercle vicieux qui est assez vertigineux. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand vous regardez la consommation en eau des Français, elle n'augmente pas. Alors là aussi, il faut être précis. Je suis désolée, hein, mais il faut vraiment qu'on comprenne.
On a le temps.
Il faut qu'on commence par bien distinguer le prélèvement et la consommation. Une centrale nucléaire, elle prélève de l'eau pour refroidir, elle la rejette dans le milieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des interdictions quand l'eau elle est trop chaude pour ne pas venir réchauffer l'eau d'un fleuve qui est trop chaud, par exemple. La consommation, c'est différent. C'est ce que, par exemple, font les agriculteurs. L'eau qu'ils vont utiliser, elle ne reva pas directement à l'endroit où on l'a prise, puisque les végétaux vont la boire et vont la réenvoyer dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, par exemple, l'agriculture prélève très peu d'eau, mais c'est le premier consommateur d'eau en France. Et donc, on a beaucoup de débats aujourd'hui où on confond l'aléa, la sécheresse hydrologique, la sécheresse météorologique. Hydrologique, c'est quand il n'y a plus d'eau dans les nappes, pas assez. C'est quand il n'y a plus d'eau dans les fleuves ou dans les cours d'eau, ou il n'y a plus d'eau dans les glaciers ou dans la neige. Météorologique, c'est quand il n'y a pas assez d'eau de pluie qui est tombée. On confond ça avec la pénurie. On confond le prélèvement et la consommation. On confond les causes et on confond les quantités. Je vous ai dit tout à l'heure, 16 000 litres d'eau par jour et par personne. Un Palestinien, il vit avec moins de 3 litres d'eau douce, potable, par jour et par personne. Donc vous voyez qu'on a des écarts absolument faramineux et que nous, le fait juste de tirer la chasse d'eau, on a déjà plus consommer d'eau, je dis bien consommer, puisqu'on ne le rejette pas, on va d'abord dans la station d'épuration, eh bien on a consommé plus d'eau que ce que peut se permettre un Palestinien tous les jours. Et quand je parle de Palestinien, c'est parce que c'est un sujet. Voilà, c'est parce que derrière, il y a justement ces facteurs politiques aussi qui font que l'accès à l'eau n'est pas équitable selon l'endroit où vous habitez, selon la manière dont vous avez accès ou pas à l'eau de manière politique, alors même que les Palestiniens dont je parle, ils sont sur une nappe phréatique. Et qu'ils habitent un pays, Israël, avec tous les problèmes politiques qu'on connaît, où l'agriculture, par exemple, fleurit dans le désert. C'est un pays développé où il y a toutes les techniques, absolument toutes les techniques aujourd'hui pour dessaler, utiliser l'eau de manière rationnelle, réutiliser les eaux usées. Donc on voit qu'on est vraiment sur des exemples technologiques où on a su faire avec le manque d'eau structurelle. Et pour autant, on est dans des situations d'extrême inégalité d'accès à l'eau. En France, on n'est pas dans cette situation. On a plutôt la situation technologique et économique d'Israël. On n'a pas les mêmes difficultés à accéder à l'eau. Mais on commence à voir des personnes qui sont en situation de précarité hydrique.
Dans quel endroit, par exemple, en France ?
Alors, ça ne va pas être dans des endroits spécifiquement. Ça va être plutôt des catégories de personnes. D'accord. Je vous donne un exemple. Les populations qui sont nomades, les gens du voyage, les gens qui se déplacent beaucoup, souvent on se rend compte que les demandes portent sur des points d'accès à l'eau dans les communes. Parce qu'évidemment, quand vous déplacez avec des mobilhomes, il faut pouvoir vous brancher sur un accès à l'eau potable pour pouvoir faire des choses. On voit aussi que les sans-domicile fixe ont de plus en plus de difficultés à accéder à l'eau. Il n'y a plus de fontaines publiques, par exemple. On a des grosses difficultés de sanitaire. puisque les sanitaires publics dans les villes, vous en avez de moins en moins, et que si vous voulez aller aux toilettes, il faut souvent aller dans un café où on va vous faire payer. Donc on voit comme ça qu'on a des catégories de population qui n'ont pas forcément accès à une eau en quantité suffisante, et en général, c'est vraiment les exclus, les marginalisés, les populations qui ont des modes de vie différents et qui sont très souvent l'objet de stigmatisation du fait de ce mode de vie choisi ou subi. Hein, on peut penser aux gens du voyage qui sont très souvent stigmatisés avec des relents racistes et xénophobes. Mmh. Et puis les personnes sans domicile fixe, parce que souvent elles sont moins bien habillées, parfois elles n'ont pas accès à des douches, donc l'hygiène corporelle est limitée. Et donc vous voyez qu'elles sont de fait exclues. Et puis vous avez d'autres questions dont on aborde peu. Là, on a parlé que de quantité. Il faut aussi parler de qualité. Et là, vous avez deux cas de figure. Vous avez maintenant beaucoup d'endroits dans lesquels des nappes phréatiques sont polluées de manière durable. On a vu le cas souvent en Bretagne où on a des arrêtés d'interdiction de consommation d'eau potable. On pourrait aussi penser à la Guadeloupe. La Guadeloupe, alors c'est la double peine. On a des réseaux très vétustes qui fait que l'eau n'arrive pas dans la maison. Et donc, on est obligé de couper le robinet. C'est ce qu'on appelle des tours de l'eau, nos concitoyens en Guadeloupe. Plusieurs heures par jour n'ont pas l'eau, parce qu'en fait, elle est coupée. Et puis, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des territoires où vous avez eu des empoisonnements avec ce qu'on appelait le chlordécone, qui est un pesticide qu'on utilisait
pour
les bananes. Et donc, cette eau, elle a été empoisonnée. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser l'eau parce qu'elle n'est pas potable, elle n'est pas consommable. Et cette question de la qualité de l'eau, elle est très importante parce qu'on a quand même des normes qui d'ailleurs sont très discutées. Certains voudraient qu'elles soient moins importantes, d'autres forcément. Et puis, vous avez derrière des accès à l'eau un peu invisibles. C'est par exemple le saturnisme. Vous connaissez peut-être cette maladie. C'est une maladie qui est un empoisonnement lié au plomb. On en a beaucoup parlé au moment de Pompéi parce que les canalisations à Pompéi étaient en plomb. Et puis surtout, les femmes se mettaient de la céruse c'était du maquillage, donc elles se collaient du plomb sur le visage. C'était pas une très bonne idée. Non. Mais aujourd'hui, dans des immeubles vétustes, on a encore parfois des canalisations au plomb. Et donc, on a aussi des empoisonnements au plomb. Alors, il y en a dans les peintures, mais il y en a aussi dans les canalisations. Et donc, on voit aussi que vous avez une corrélation, voire une causalité directe entre le mal logement, la précarité en termes de logement, l'accès à des logements dits décents, et puis des enjeux sanitaires, sachant que ce saturnisme, il frappe beaucoup les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Et donc, vous voyez que derrière, en fait, cet accès à l'eau, il devient problématique et qu'il n'existe aujourd'hui que parce que l'eau en France est très encadrée. C'est un service public marchand, qui est libéralisé. Donc, vous avez des collectivités qui ont fait le choix d'aller vers des entreprises privées. Dans d'autres cas, c'est des entreprises publiques, c'est des régies municipales, des régies métropolitaines. Et c'est très intéressant aussi parce que d'emblée, vous voyez que je ne parle plus d'eau en réalité. Je ne parle plus de la dimension physique. Je parle de la manière dont l'homme produit, achemine, fabrique cette eau, les conduites d'eau, l'assainissement. Je parle aussi d'enjeux économiques. Je suis riche ou je suis pauvre. Je parle d'enjeux politiques. Je décide d'exclure ou au contraire d'inclure telle ou telle population. Je parle d'enjeux psychologiques, sociaux, de valeurs. Je suis raciste, je suis xénophobe, je suis pour exclure certaines catégories. Et donc, vous voyez que derrière, en fait, le problème physique au départ, 16 000 litres d'eau par jour en moyenne au niveau terrestre, en fait, quand on le repose comme ça, on en voit toute la complexité et toute cette incapacité aujourd'hui du débat politique à poser des questions sur la table qui sont comment dans un climat qui change, chacun a le droit à l'eau qui est un bien commun, donc qui n'appartient à personne et qui pourtant est marchandisé, en quantité et en qualité suffisante pour vivre. Et quels sont les besoins qu'on considère comme essentiels, au-delà du besoin vital de boire, quels sont les besoins qu'on considère essentiels au bien-être humain de tous et qu'on doit donc protéger, et quels sont les besoins humains superflus qui posent une question de régulation, voire d'interdiction parfois, dans un souci d'équité et de justice. Le débat, en fait, qui devrait être posé, c'est celui-là.
Ok, très clair. Et alors, enfin, du coup, j'ai des tonnes de questions qui me viennent quand je vous écoute. C'est un peu le problème. Ouf ouais, non, ça va être un peu un problème, mais on va voir comment on va s'en sortir. En fait, quand je vous entends, j'ai l'impression, mais je sais que j'ai tort, parce que je sais que c'est pas le cas, qu'en fait, le problème, il est assez modéré pour la France. Et que, parce qu'on entend quand même beaucoup, beaucoup de choses sur les problématiques de l'eau, et j'ai l'impression que, en fait, ça va, la consommation des Français n'augmente pas, donc finalement, il peut y avoir des stress hydriques de temps en temps sur quelques départements, mais finalement, il n'y a pas de gros, gros problèmes, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et donc, j'aimerais bien comprendre.
Alors, là aussi, d'abord, c'est une question très subjective, parce que tout ce que je vous ai dit, le fait que des gens n'aient pas accès à l'eau, le fait que des enfants soient malades en France à cause de l'eau, le fait que des départements entiers aient des tours de l'eau, ça devrait mettre les gens dans la rue. Enfin, je veux dire, justement, on est en France. On n'est pas dans un pays en voie de développement. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un petit... La mesure du risque, la mesure de la situation, c'est une appréciation subjective. Le fait que ça soit subjectif, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais de fait, déjà, on voit bien qu'on est dans des perceptions qui évolue énormément par rapport à des discours politiques, par rapport à des médias, par rapport à ce qu'on va appeler des influenceurs. Je ne parle pas simplement des gens sur TikTok ou YouTube. Je parle sur vraiment les gens qui ont une autorité morale et politique, qui vont porter des discours auxquels les personnes vont adhérer et qui vont faire qu'elles vont considérer souvent comme plus ou moins justes les choses. Et donc, le problème qu'on a déjà en France, c'est qu'on dit la France, les Français, alors qu'on voit bien que selon les territoires, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, la question qui se pose, c'est que si effectivement on prend juste la consommation individuelle, on ne va pas mourir de soif, si c'est la question qui est posée. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que ce n'est pas la même chose de vivre avec des bouteilles en plastique à 3 litres d'eau par jour et par personne, ce qui nous permet de survivre, et de vivre avec mon jardin tout vert, ma piscine, ma baignoire, faire cuire mes pâtes, etc. Surtout, c'est ce que je vous ai dit, ben l'eau, il n'y a pas que les individus qui la consomment. Il y en a par exemple besoin pour l'agriculture. Il y en a par exemple besoin pour les industries. Il y en a par exemple besoin pour le tourisme. Et puis je vais plus loin, il y en a besoin surtout pour les milieux. Et on voit aujourd'hui par exemple que les forêts françaises, à cause de la sécheresse, du manque de précipitations et de l'assèchement des sols, sont en train de mourir. Si ces forêts meurent ou sont en mauvais état, ça veut dire que notre puits de carbone meurt. Ça veut dire que notre puits de carbone, c'est ce qui permet de manière naturelle de capter le CO2 excédentaire qu'on n'a pas réussi à ne pas émettre.
Bien sûr.
Moins notre puits de carbone est important, plus il va y avoir de CO2 dans l'atmosphère, plus ça va réchauffer l'atmosphère, moins il y aura d'eau. Et puis surtout, il faut dire aussi une chose, c'est que je ne peux pas répondre à votre question parce que tout va dépendre des actions qui vont être entreprises dans les prochaines années. Pour un, limiter au maximum le réchauffement.